Bien, bonsoir. Je vous propose qu'on commence cette troisième séance. Troisième séance où on va être d'une certaine manière au cœur de notre sujet, puisqu'il va s'agir d'aborder la révolution en elle-même comme un type d'événement singulier. Hein, la semaine dernière, pour rappel, on s'est penché sur ce qui cause les révolutions, spécialement sur les frustrations à l'origine du mécontentement populaire. En tout cas, c'est une piste en interprétation classique en sociologie. Et puis également sur leurs préconditions, sur ce qui favorise l'irruption des situations révolutionnaires. Et puis donc la semaine prochaine, on abordera les suites, les conséquences des révolutions sur les sociétés, sur le système politique. Alors simplement entre les deux, entre les causes et les effets, eh bien il y a la révolution elle-même, et on peut observer que curieusement, c'est la séquence qui paraît la plus mystérieuse, celle à propos de laquelle les éléments d'analyse sont les plus rares et les moins solides. Donc je vais essayer de combler ce manque en sollicitant cette fois encore différents cadres d'analyse sociologique et puis une multiplicité d'exemples historiques. Alors cette séance, elle sera divisée en trois parties. J'ai intitulé la première « Extension du domaine de la lutte » parce qu'il s'agit bien de cela. Les révolutions se caractérisent par une généralisation de la contestation et une multiplicité de sites ou d'espaces sociaux. Hein, ce sont des modalités complexes que on évoquera ensemble. La deuxième partie, elle portera sur un autre niveau, celui des élites de la société et sur la manière dont elles agissent en contexte de généralisation de la mobilisation. Hein, lors de la première séance, j'avais déjà citer cette phrase de Lénine hein, sur les révolutions qui arrivent quand ceux d'en bas ne veulent plus et ceux d'en haut ne peuvent plus. Et donc ces deux premières parties du cours porteront chacune, si on veut, sur un de ces niveaux. Hein, ceux d'en bas dans la première partie et puis ceux d'en haut dans la deuxième. Et puis dans la troisième partie, j'évoquerai un ensemble de mécanismes qui interviennent dans la dynamique révolutionnaire et qui peuvent orienter la direction du processus, notamment les mécanismes de radicalisation et d'évolution des enjeux. Mais avant d'aborder ces différents points, je vais devoir m'arrêter au préalable sur quelques principes d'analyse qui vont orienter la suite de mon propos. Alors, ces principes, ils sont au nombre de trois. Le premier, c'est l'autonomie des phénomènes révolutionnaires par rapport à leurs causes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, tout simplement qu'une fois que les causes ont produit une situation révolutionnaire, la dynamique de la révolution s'émancipe, en quelque sorte, de ses causes, qui n'influent plus sur la suite des événements. Une fois que la révolution est là, peu importe finalement ce qui l'a causé, ce qui a amené à l'explosion du mécontentement, c'est dans une autre temporalité que les événements désormais vont se dérouler. Pour le dire autrement, ce sont peut-être des évolutions, pour utiliser un exemple aussi que vous allez identifier tout de suite, ce sont peut-être des évolutions démographiques et économiques qui conduisent à une surproduction de diplômés chômeurs. Mais une fois que des manifestations composées en majorité de diplômés chômeurs ont été sévèrement réprimées et que les manifestants ont pris la résolution de se venger dans une nouvelle manifestation encore plus nombreuse et encore plus déterminée, on est dans autre chose. On est dans une dynamique de conflit entre police et manifestants qui n'a plus grand-chose à voir avec ce qui avait impulsé la mobilisation initialement. Deuxième exemple, qui sera sans doute encore plus parlant, lorsque les étudiants parisiens ont commencé à manifester à partir du 6 mai 68, c'était pour exiger trois choses. La réouverture de la Sorbonne, le départ des policiers du quartier latin et la libération de leurs camarades qui avaient été arrêtés lors des premiers affrontements du 3 mai. Et sur ces trois points, ils vont obtenir satisfaction le 13 mai. Hein, Georges Pompidou, le premier ministre à l'époque, annonce la réouverture de la Sorbonne, on trouve un argument juridique pour libérer ceux qui sont en prison, etc. Le problème, c'est que cette satisfaction des revendications, elle vient trop tard. Elle vient une semaine après, mais c'est déjà trop tard. Parce que pendant cette semaine, la situation a évolué. La crise est entrée dans une dynamique qui n'a plus rien à voir avec ce qui l'a causée. Elle ne concerne plus seulement les étudiants, mais les salariés. Elle ne concerne plus seulement le quartier latin, mais l'ensemble de la France. Plus seulement les questions de la police à la Sorbonne, mais le régime de la Ve République lui-même. Donc ce sont ces phases d'extension, ces mécanismes d'extension que je vais bientôt évoquer dans mon premier point. Mais l'idée à retenir, c'est qu'une fois que la situation révolutionnaire est là, peu importe ses causes, c'est en regard de cette situation que les protagonistes vont devoir agir. Le deuxième principe, qui est assez simple, c'est que les conjonctures révolutionnaires, et plus globalement les conjonctures de crise politique, sont marquées par l'incertitude. Dans les conjonctures ordinaires ou routinières, on ne s'inquiète pas sur les bases de fonctionnement de la société. Le chef est assuré d'être respecté, le policier est assuré d'être obéi, on sait qu'on peut compter sur ses collaborateurs, etc. C'est cette certitude, qui n'a même pas besoin d'être exprimée ou d'être consciente, qui permet au monde social de fonctionner. Cela tient au fait que nos sociétés sont structurées, qu'elles sont assises sur des bases solides qui font que les gens font leur travail pour lequel ils sont payés, que les subordonnés obéissent à leurs supérieurs, que la hiérarchie sociale est respectée, etc., etc. Par exemple, dans les tribunaux, les plus riches sont moins sévèrement sanctionnés que les plus pauvres. Un mécanisme de reproduction de l'ordre social. Bon. Alors, dans une conjoncture révolutionnaire, à l'inverse, le monde social, il semble s'écrouler parce que ces mécanismes, pas tous et pas partout, soyons prudents, mais ces mécanismes sont beaucoup plus incertains. Imaginons un patron dont les salariés sont en grève et ont installé un piquet de grève. Il va appeler le préfet pour que la police vienne disperser le piquet de grève. Mais qu'est-ce qui se passe si on lui répond que le préfet que le préfet n'est pas joignable parce qu'il est séquestré dans son bureau? Ou que le préfet lui répond que c'est impossible de disperser le piquet de grève parce que la police refuse de lui obéir. À une échelle plus large, comment agir lorsqu'on est Premier ministre et que le président de la République a disparu, que personne ne sait où il est? Si des officiers mutins ont abattu le dictateur, est-ce que les militaires vont rester dans leur caserne ou est-ce qu'ils vont suivre ces mutins? Comment vont réagir l'armée ou la police si vous êtes 200 000 manifestants à avoir bravé un couvre-feu? Est-ce qu'elles vont fraterniser avec cette population qui se révolte ou est-ce qu'elles vont tirer sur la foule? Ce sont des questions, des points d'incertitude qui vont s'imposer à ceux qui dirigent le régime. Vous voyez le type de problème auquel les protagonistes des révolutions sont confrontés et évidemment ça va influer sur le type de conduite qu'ils vont adopter. Et puis le troisième principe, il est plus méthodologique. J'ai insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'il n'y avait pas de loi générale des révolutions, par exemple qu'il n'y avait pas d'étape nécessaire par lesquelles toutes les révolutions devaient nécessairement passer. Une idée qui était, je l'avais évoquée dans la première séance, qui était présente dans le modèle de l'histoire naturelle de Crane Brinton. Or, pour reprendre une formule plus courante, il n'y a pas de loi de l'histoire, parce que le cours du monde historique, il est trop chaotique, il est soumis à trop de détermination pour pouvoir faire l'objet de prédictions. On a des causes structurelles qui fournissent des préconditions favorables à une révolution. Ces conditions favorables peuvent être identifiées, mais ce sont les causes superficielles qui vont décider si cette révolution éclatera ou pas. Donc on n'a pas de loi de l'histoire, mais, et je reprends encore une formule de Paul Venn, il y a des lois dans l'histoire. Ou plus simplement, le monde historique n'est pas non plus un chaos indescriptible. C'est pas simplement un récit plein de bruit et de fureur raconté par un idiot et qui ne signifie rien. En l'occurrence, ça serait moi l'idiot. On peut, à l'inverse, repérer dans le cours du monde historique des mécanismes, des processus qui se répètent d'événement en événement, qui expliquent que telle ou telle conséquence découle de tel ou tel phénomène. Donc on peut repérer des similarités d'enchaînement, de faits, dans une série de révolutions que l'on va comparer, par exemple, et ces enchaînements de faits, on pourra les appeler mécanismes ou processus selon leur ampleur. Ça ne veut pas dire qu'on va retrouver nécessairement les mêmes mécanismes dans toutes les révolutions, mais on pourra les identifier dans plusieurs révolutions différentes. Comme par exemple, j'en donne un sur lequel je reviendrai tout à l'heure, des effets d'imitation, de diffusion qui jouent d'un pays à l'autre et qui transmettent l'humeur révolutionnaire. Dans les pays de l'Est en 1989, dans les pays du bloc soviétique ou dans un certain nombre de pays arabes à la fin de l'année 2010 et sur 2011. Voilà. Donc j'ai été un petit peu long sur ces préliminaires, mais ils étaient nécessaires pour l'intelligibilité de la suite. Donc je vais passer tout de suite à mon premier point, donc celui que j'ai appelé extension du domaine de la lutte. Alors je vais beaucoup, c'est aussi un petit préalable, je vais beaucoup m'appuyer dans ce premier point, mais aussi pour l'ensemble de la séance d'aujourd'hui, sur un auteur que j'ai déjà cité, qui est le politiste français contemporain Michel Daubry, et tout spécialement son livre « Sociologie des crises politiques », qui a été publié pour la première fois en 1986, qui a été récemment réédité. Et c'est un livre qui est sous-titré « La dynamique des mobilisations multisectorielles », ce qui n'est pas un sous-titre très, très vendeur, mais... alors qu'est-ce que ça veut dire, « mobilisation multisectorielle » ? En premier lieu, que les crises politiques... mais aussi les révolutions, il n'y a aucune raison de faire un distinguo à ce niveau. Ces crises politiques, elles interviennent dans des sociétés complexes, c'est-à-dire qu'elles sont divisées en une multiplicité de secteurs, ou de ce que Pierre Bourdieu appellerait des champs. C'est-à-dire que nos sociétés, on peut les dire complexes parce qu'elles sont divisées en une multiplicité de secteurs d'activité ou de champs sociaux, comme le champ médiatique, le champ économique, le champ politique, le champ médical, le champ religieux, etc., etc. Alors comment... Donc on a une espèce de dispersion de la société qui pose la question de comment ça tient, une société aussi éclatée en différents univers. Alors ces champs ou secteurs, peu importe le terme ici, ces champs ou secteurs, ils coexistent généralement en bonne entente parce que chacun se mêle de ce qu'il regarde. Le champ politique ou le champ administratif, par exemple, n'ont aucune raison d'aller embêter le champ économique. Par exemple, un ministre peut dire qu'on peut faire confiance aux responsables de l'industrie pharmaceutique ou de l'industrie de l'agroalimentaire pour proposer des produits sans danger aux consommateurs. Et c'est ce qu'il fait le plus souvent. Mais vous percevez ce que cela peut avoir comme conséquence quand des irresponsables se mettent à se mêler de ce qui ne les regarde pas. À ce moment-là, les règles du jeu habituelles ne sont plus respectées. Alors, par exemple, des irresponsables, on peut en trouver dans le secteur judiciaire. Notamment quand des juges se mettent à regarder les comptabilités d'hommes politiques et les relations qu'ils entretiennent avec les entrepreneurs à qui ils confient des chantiers publics. Quand des scandales ont éclaté, pour des histoires d'abus de biens sociaux ou de corruption, ce n'est pas parce qu'il y avait une augmentation de cette corruption. C'est simplement que des juges ont refusé de fermer les yeux sur des phénomènes anciens et connus de longue date. Et c'est précisément ce qui est arrivé au début des années 90 avec l'opération Main Propre en Italie, qui a conduit à une crise politique majeure et à la chute de la Première République italienne. Autrement dit, quand les relations habituelles entre des secteurs ou des champs sont gravement perturbées, par exemple quand les hommes politiques ne peuvent plus compter sur les juges pour fermer les yeux sur leurs écarts à la loi, on entre dans une situation critique, dans une situation de crise. Un autre exemple, c'est lorsque, en mai 1958, les militaires d'Alger ont déclaré qu'ils n'obéiraient plus aux ordres du gouvernement de la métropole et que le seul à qui ils accepteraient d'obéir désormais, c'est un autre militaire, le général de Gaulle. On voit qu'il y a eu rupture dans les manières dont les différents secteurs, en l'occurrence le gouvernement et le secteur militaire, entretiennent leurs relations. Il y en a un qui désormais refuse d'être subordonné à l'autre, qui impose ses conditions à l'autre. Alors, une deuxième conséquence de cette complexité des sociétés, du fait qu'elles sont divisées en secteurs, c'est qu'une crise ou une révolution est marquée par l'extension d'une mobilisation d'un secteur à un autre, voire à une multiplicité d'autres secteurs. Lorsqu'une mobilisation affecte un seul secteur, ça ne tire pas trop à conséquence parce que ça reste sous contrôle, même si ça peut être très problématique. Une grève durable de la SNCF, c'est un vrai problème pour l'économie et pour le gouvernement. Une grève dans l'ensemble des universités, c'est aussi un gros souci. La même chose avec une grève d'infirmières, d'enseignants, dans l'industrie automobile. Voilà. Mais tant que ça reste un secteur après l'autre, qu'il n'y a pas contagion entre ces secteurs, c'est quelque chose qui reste maîtrisable et pour lequel on dispose de moyens de gestion éprouvés, à la fois des canaux de négociation et des moyens contraignants. Par exemple, on dispose de contacts de longue date. Lorsqu'on est un gouvernant, un ministre, on dispose de contacts de longue date avec des leaders syndicaux avec qui on peut négocier une sortie de crise avec des concessions en échange d'une fin de mobilisation. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être embêtantes, mais qui ne sont pas gravissimes. Le souci, il est davantage lorsque le mécontentement s'étend au-delà de son foyer initial. Alors ça peut être une extension au niveau géographique, par exemple une mobilisation dans une ville de province, par exemple suite au suicide d'un jeune marchand ambulant qui, voilà, ça crée une série de manifestations à Sidi Bouzid en Tunisie, mais progressivement ça s'étend, enfin progressivement mais assez rapidement, ça s'étend à tout le pays et spécialement à la capitale. Et la répression des manifestations ne parvient pas à calmer les protestataires, mais au contraire, ça les radicalise et ça nourrit un ressentiment déjà ancien contre le gouvernement qui, cette fois, va s'exprimer de manière collective et publique. Et du coup, l'objectif n'est plus tant dans la réparation d'une injustice, il n'est plus tant dans une exigence de réforme que dans le départ du gouvernement, avec le fameux slogan « Dégage ». Ça peut être donc au niveau géographique, ça peut être aussi et en même temps au niveau social, lorsqu'une protestation des étudiants est réprimée de manière tellement sauvage que les syndicats appellent à une journée de grève générale en solidarité. Mais même là, ça reste relativement sous contrôle. Par contre, ça l'est moins lorsque les salariés refusent de reprendre le travail, comme les y invitent leurs syndicats, et qu'ils continuent la grève ou qu'ils se remettent en grève après cette journée d'action. C'est précisément ce qui s'est passé en mai 68. Les directions syndicales n'avaient pas appelé à reprendre le travail, enfin à poursuivre la grève, au contraire, ils avaient demandé aux salariés de reprendre le travail après la journée d'action du 13 mai, mais les salariés n'ont pas suivi et au contraire, ils ont poursuivi la grève. Donc on repère ici un premier mécanisme qui joue dans ce processus d'extension de la base de la protestation, qui est une identification de secteurs de la société plus ou moins nombreux et plus ou moins amples à un premier groupe ou foyer de mobilisation. En termes sociologiques, on va dire qu'il y a une attribution de similarité. Les acteurs de différents secteurs de la société se disent que leur situation est comparable à celle d'autres qui se sont déjà mobilisés, et ils vont se rallier à leur tour à leur mobilisation. Même si cette identification peut être surprenante ou paraître incongrue en regard de la structuration du monde social. Alors, c'est ici que les facteurs structurels vont jouer un rôle important. Par exemple, dans une société extrêmement polarisée, très inégalitaire sur tel ou tel plan, il se peut que des fractions de la société se reconnaissent comme partageant un trait en commun qui va favoriser leur coalition. Ça peut être une base religieuse, ça peut être une base ethnique, une base géographique, de génération, bien sûr, sur une base sociale. Et dans une société aussi gérontocratique que l'était la société française de 1968, qui avait connu le baby-boom de l'après-guerre, il est fort possible que la coalition entre les étudiants et les travailleurs, et notamment les jeunes travailleurs, se soit jouée sur un clivage entre les jeunes dominés et les vieux dominants. Dans la révolution iranienne, il est fort possible que, sans qu'il soit nécessaire d'imputer un fanatisme qui viendra plus tard, l'opposition structurante qui a rassemblé les révolutionnaires, c'est l'opposition entre les élites modernistes anticléricales et une base sociale beaucoup plus pauvre et encore attachée à la religion musulmane. D'où le succès des formes d'action qui se sont inspirées de la religion, puisque le calendrier des manifestations a suivi les étapes des célébrations du deuil dans l'islam. Donc, on a eu un support d'identification au travers de l'islam dans le cadre de la révolution iranienne de 79. Mais il ne suffit pas que des groupes sociaux différents les uns des autres se sentent proches à la faveur d'une mobilisation pour que ça débouche sur un soulèvement de masse. Il peut y avoir aussi une part d'action volontaire dans la généralisation de cette mobilisation, principalement du fait d'une catégorie d'acteurs que les sociologues désignent comme des courtiers. Alors, ça vient plutôt d'une sociologie américaine, notamment les travaux de Charles Tilly et Sidney Tarot que j'ai indiqués en bibliographie, qui, donc en anglais on parle de brokers, l'équivalent de courtiers. Alors les courtiers, ce sont des gens qui, sur un marché, font l'intermédiaire entre un acheteur et un vendeur. Alors transposé à la science politique, cette idée économique d'intermédiaire, et transposée au processus de mobilisation, les courtiers, ce sont ceux qui vont rapprocher, mettre en contact des groupes qui, auparavant, n'étaient pas en contact, qui ne se connaissaient pas ou qui étaient en situation de concurrence. Alors, pour un exemple de courtier, pensez au rôle de Jean Moulin dans l'unification des mouvements de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous aviez des mouvements communistes, gaullistes, chrétiens. Ils avaient des relations distantes, voire hostiles, parce qu'il y avait aussi des logiques de concurrence entre eux. Donc il a fallu des intermédiaires, comme Jean Moulin, pour unifier la résistance, et surtout des intermédiaires en mesure d'être reconnus comme légitimes et suffisamment diplomates pour être acceptés par tout le monde. Alors, ce ne sont pas seulement des qualités personnelles, comme celles que je viens de décrire, qui jouent dans la constitution du rôle de courtier, mais ce sont aussi des capacités ou des compétences retirées d'un statut. Par exemple, le fait de voyager librement, de parler plusieurs langues, etc. Et je dirais, à une échelle plus réduite, des syndicalistes étudiants qui vont faire la tournée des amphis dans une université pour appeler à la grève, ou, autre exemple, des syndicalistes qui vont faire la tournée des dépôts SNCF ou des centres de tri pour appeler leurs collègues à rejoindre une mobilisation, sont dans la même situation de courtiers, c'est-à-dire des gens qui vont mettre en relation, unifier un mouvement en lui donnant de l'ampleur, à partir de différentes unités de base. Alors évidemment, du côté des adversaires, il s'agit d'empêcher ces connexions. Alors ça peut passer par une restriction et un contrôle des déplacements, pensez à la Seconde Guerre mondiale précisément, histoire des laissez-passer, des autorisations spéciales de déplacement. Ça peut être également par une interruption des communications à distance, un contrôle du courrier, l'interdiction d'Internet, comme ça a été le cas pendant la révolution égyptienne, ou bien tout simplement par une neutralisation des courtiers, par leur arrestation ou leur exécution. Parce que, évidemment, ce qui va jouer un rôle essentiel dans ces processus, c'est l'information, et spécialement l'information sur l'état de la mobilisation. Faire savoir que la mobilisation s'étend, ça permet d'encourager les attentistes à se rallier à leur tour. La semaine dernière, j'avais évoqué les commerçants des bazars en Iran qui étaient dans l'expectative, qui ne savaient pas trop si ça valait la peine de s'engager ou s'il fallait s'engager ou si au contraire, donc ils se regardaient les uns les autres, lequel va ouvrir son magasin. Bon, finalement personne ouvre son magasin. Et du coup la grève elle est suivie. Donc si des indicateurs d'une généralisation de la mobilisation sont disponibles, ça encourage chacun à ne pas rester à l'écart, ça aide à surmonter les réticences parce que le coût du non-engagement risque d'être plus élevé que celui de l'engagement. D'où, là encore, l'importance pour les adversaires d'empêcher la diffusion d'informations sur l'état de la mobilisation ou de diffuser des informations fausses, disant « oui, ça décline, le mouvement piétine ». Bon, vous connaissez ça si vous suivez les grandes vagues de mobilisation. Alors, ça passe par de la censure, par de la désinformation. Mais comme les protestataires ne sont pas naïfs, ils se reportent à d'autres sources d'informations, comme par exemple la presse étrangère. D'où encore des enjeux autour de la censure d'Internet ou de la radio. Alors, ces informations sur l'état de la mobilisation, elles n'ont pas des effets mécaniques ou uniformes, surtout si ces informations sont d'une fiabilité toute relative. C'est aussi en fonction de la réputation des différents groupes qui se rallient au mouvement que leur ralliement va prendre sens. Dans un mouvement étudiant, c'est finalement pas très important de savoir que les étudiants en sociologie se sont mis en grève. Parce que de toute façon, ils sont de toutes les grèves. C'est la gréviculture, comme on dit, elle est assez diffuse chez les étudiants en sociologie. Par contre, savoir que les étudiants en droit, même les étudiants en droit, ont rejoint la grève, ça a du poids. Parce que eux, c'est pas des grévistes invétérés. Donc c'est un gage de sérieux de la mobilisation. Si ceux qui sont généralement les plus timides, ceux qui restent le plus souvent à l'écart des protestations, finalement ils sont mobilisés à leur tour. Alors ça joue à une autre échelle, au niveau national par exemple, quand même les plus proches du pouvoir expriment une protestation contre le régime. Par exemple, j'avais évoqué le cas de la dictature de Trujillo en République dominicaine. Lorsque l'Église catholique, qui était un des soutiens du régime, a commencé à exprimer des critiques et des critiques qui allaient crescendo, c'était un signe indubitable d'affaiblissement de la légitimité et de la solidité du régime, surtout de sa solidité. Et ça joue également au niveau international quand un régime réputé particulièrement répressif est vaincu par une révolution. Ça incite d'autres à se mobiliser parce que cela montre que c'est possible, que c'est jouable, qu'il y a une opportunité à ne pas manquer parce que peut-être qu'elle ne se représentera pas de sitôt. On a donc des indications sur les phénomènes d'extension d'une mobilisation à partir d'un foyer originel. C'est lorsque la mobilisation devient multisectorielle, lorsqu'elle affecte tout un ensemble de secteurs sociaux au point de gripper les rapports sociaux ordinaires, qu'on commence à entrer dans une situation de crise ou de révolution. Mais il ne faut pas non plus se laisser prendre aux représentations un peu naïves que les révolutionnaires eux-mêmes peuvent diffuser dans cette phase de montée en croissance, de montée en puissance de leur mouvement. On connaît le slogan « tous ensemble, tous ensemble ». Dans la réalité, c'est plus compliqué, parce que des mobilisations aussi amples, qui font se coaliser des groupes sociaux aussi différents, elles sont composites. Chacun vient avec ses propres préoccupations, ses propres enjeux, qui ne sont pas nécessairement compatibles avec ceux de leurs voisins. Les mobilisations, on peut dire aussi qu'elles sont dispersées, dans ce sens qu'elles réunissent des acteurs dont les buts sont différents. Entre ceux, par exemple, qui veulent davantage de liberté politique étouffée par le régime, et puis ceux qui veulent un retour aux traditions de l'islam bafoué par ce même régime, dans le cas de la révolution iranienne. Vous voyez qu'il y a aussi des camps, des clivages à l'intérieur des révolutionnaires. Il y a aussi des concurrences entre les révolutionnaires pour le contrôle du processus et pour la définition de sa direction. La révolution va aussi dépendre de l'état des rapports de force au sein du camp révolutionnaire. En Iran, entre la gauche et les islamistes, pendant la révolution française entre Jacobins et Girondins, etc. Et certains qui ont adopté une posture attentiste vont pouvoir aussi se rallier à la révolution une fois que le processus est bien lancé, qu'il est perçu comme irréversible. Ça a été le cas des frères musulmans en Égypte qui ne se sont ralliés que tardivement à la révolution et qui l'ont capté à leur profit. La constitution d'une coalition, elle est donc décisive pour l'unité et l'amplitude du processus, mais c'est aussi une faiblesse potentielle. Et un exemple récent en est donné par le mouvement du 20 février au Maroc, qui rassemblait des forces qui allaient des altermondialistes et de l'extrême gauche jusqu'aux islamistes modérés. Le mouvement du 20 février, c'est un mouvement qui a été lancé dans le sillage de la révolution tunisienne. Et le problème, donc il y a eu une coalition puissante qui appelle à une réforme assez radicale de la société. Et donc c'est une coalition, mais cette coalition, ça a été le principal talon d'Achille du mouvement, parce que des divergences sont apparues quant à l'attitude à adopter devant les propositions de concertation qui ont été offertes par la monarchie. Et donc c'est dans ce contexte de doute sur, le roi Mohamed VI propose une concertation, il y a qui disent faut y aller, il y a d'autres qui disent non, faut surtout pas y aller. Et donc ça fragilise la coalition et des divergences apparaissent et finalement ça éclate. Donc le roi reste à son poste et on a un délitement rapide de quelque chose qui pourtant avait paru pendant un moment en mesure de menacer le régime de Mohamed VI. La même chose au Yémen, où la dynamique révolutionnaire a été le produit de l'activation de réseaux préexistants mais qui étaient clivés entre différentes fractions de l'opposition, notamment des islamistes et des libéraux, mais au sens politique, hein, du terme libéral. Bon, ces clivages, ils sont apparus très rapidement, ce qui fait que ce qui aurait pu être une opposition a privilégié la posture de l'attentisme. Et du coup, ils se sont débarrassés du dictateur, donc Ali Abdallah Saleh, qui est parti après 33 ans de règne. Mais le régime est resté, c'est-à-dire c'est d'autres à la place, mais les fondements du régime n'ont pas été ébranlés. Voilà. Donc un caractère composite des mobilisations qui à la fois favorise leur montée en puissance, mais qui est également un point de vulnérabilité. Je passe maintenant à mon deuxième point, qui donc s'intéresse davantage au niveau des élites, les élites dirigeantes ou le niveau de l'État. Alors l'État, lui aussi, il est composé d'une multiplicité de secteurs. C'est pas simplement la société en son ensemble, mais l'État lui-même peut être appréhendé comme une configuration composite où on a différents secteurs qui tiennent plus ou moins bien ensemble. C'est-à-dire, contrairement aux représentations communes et au langage qui nous invite à parler au singulier, l'État, c'est pas quelque chose d'unifié, l'État ne marche pas comme un seul homme, il est composé d'un ensemble d'unités, de secteurs qui ont chacun leur logique et qui poursuivent chacun leurs intérêts propres. Le secteur judiciaire, le secteur militaire, la police, les différentes administrations, l'exécutif et le législatif, ça constitue des secteurs institutionnalisés qui, dans les phases de routine, c'est-à-dire dans les situations les plus courantes, fonctionnent à peu près bien parce que chacun se mêle de ce qu'il regarde et attend des autres la même chose. En France aussi, il n'y a pas qu'en Italie, pendant des décennies, les juges ont fermé les yeux sur les petits arrangements avec la légalité du personnel politique. Et puis, quand des militaires commettent quelques écarts trop voyants, le gouvernement les couvre. L'affaire du bateau de Greenpeace, les bavures policières, ce sont des manières d'attester qu'on tolère une autonomie de chaque secteur. À l'inverse, ce qui va caractériser les situations de crise ou de révolution, c'est que cette économie des bonnes relations entre secteurs, elle va être affectée, car la cohésion de l'ensemble est remise en cause. Alors, évidemment, ce sont les secteurs armés qui sont les plus sensibles, car ce sont eux qui disposent des moyens de maintenir les élites à leur place. Mais en étant conscients de ce rôle décisif, ils peuvent aussi en jouer à leur avantage et de la sorte déséquilibrer l'ensemble. Quand une contestation se fait trop forte, les autorités militaires peuvent négocier une place plus grande dans le gouvernement. J'ai évoqué mai 58, c'est un exemple typique. On peut aussi penser à, sauf que ça ne vient pas de la menace d'une contestation populaire, ou tout au moins de la menace de la contestation populaire des indépendantistes algériens. On peut penser aussi à la manière dont le secteur militaire au Chili a pesé sur le gouvernement Allende. C'est-à-dire Pinochet était ministre à la fin du régime démocratique d'Allende. Alors, il y a l'enjeu, il est aussi interne au secteur militaire. Dans quelle mesure la troupe restera-t-elle fidèle à la hiérarchie? Comment empêcher la troupe de fraterniser avec la population? C'est des questions qui peuvent se poser. Alors il y a des techniques pour ça, pour répondre à ce danger, qui ne sont pas applicables partout, mais par exemple, vous pouvez, si vous êtes dans un pays qui est clivé ethniquement, vous recrutez vos militaires uniquement dans une ethnie. C'est-à-dire que l'ethnie majoritaire, celle qui est le plus susceptible de se soulever, qu'il n'y ait pas de lien de fraternisation qui soit possible. Ou encore, vous pouvez recruter vos troupes d'élite à l'étranger pour qu'un ralliement à la population soit plus difficile. Une armée de militaires payés, c'était le cas dans la Libye de Kadhafi. Mais dans une phase de crise ouverte, je l'ai dit, c'est l'incertitude qui règne, et qui règne aussi au niveau du pouvoir. Et cette incertitude, elle va témoigner d'un affaiblissement de la direction de l'État. Du coup, chacun peut se dire qu'à la fois il doit veiller à protéger ses arrières, et ne pas insulter l'avenir, ou se dire qu'il a peut-être un coup à jouer, une opportunité inespérée de devenir calife à la place du calife, par exemple. L'incertitude en situation de crise, ça produit ce que Michel Daubry appelle une évasion des calculs. C'est-à-dire que les repères sur lesquels s'appuyer les calculs stratégiques en situation de routine, en situation ordinaire, c'est plus pertinent. On ne peut plus s'appuyer sur la marche normale et en grande partie prévisible des institutions. Et donc il faut trouver d'autres repères, mais qui sont moins solides. D'où le rôle des rumeurs. Comment agir, je reprends le même exemple, quand on est Premier ministre et que personne ne sait où se trouve le Président de la République? Comment faire face à un soulèvement insurrectionnel si on n'est pas certain que l'armée restera fidèle? Eh bien, en l'occurrence, on va en Allemagne pour vérifier par soi-même que les troupes françaises qui sont stationnées en Allemagne sont fidèles. Et c'est pour le faire que, précisément, le général de Gaulle, le Président de la République, avait disparu pendant la journée du 28 mai. Mais il n'avait pas prévenu son Premier ministre qu'il se rendait pas chez lui, et il y a eu la tentation, il y a eu quelques indices que Pompidou s'est dit si de Gaulle a disparu, j'ai peut-être un coup à jouer. Bon. Ce qui est intéressant donc à observer dans ce type de situation, ce sont les basculements et ce qu'on appellerait vulgairement des retournements de veste. Certains, qui sont parfois les plus proches de la tête du régime, vont jouer leur carte personnelle en annonçant qu'ils renient le dirigeant qu'ils ont servi pendant des années et que, vu sa perte de légitimité, ils prennent la responsabilité du pouvoir. Et ça a été le cas en Tunisie quand d'anciens ministres de Ben Ali ont annoncé qu'ils allaient remplir la vacance du pouvoir. Alors, ça n'a pas marché, mais ils ont contribué à fragiliser le peu qui restait encore de la légitimité et de l'autorité de Ben Ali, parce que même ses plus proches soutiens le lâchaient. Donc là, c'était vraiment fini pour lui. Alors, quelque chose qui est un petit peu cocasse dans ce type de situation, c'est que dans des régimes autoritaires où la constitution existe juste pour la forme, où les parlements n'ont aucun pouvoir, la disparition de celui qui occupait tout le pouvoir, ça crée une situation de vide à laquelle on essaye de pallier en se référant aux textes constitutionnels qui, du coup, reprennent une certaine pertinence. Là aussi, en Tunisie, le Parlement s'est appuyé sur la Constitution pour refuser que les proches de Ben Ali occupent le pouvoir. Ils ont dit non, regardez-la, lisez bien la Constitution, c'est le Parlement, si le dirigeant, le dictateur est empêché, le Parlement, personne n'en avait rien à faire, si je puis dire, dans le régime autocratique de Ben Ali, mais quand Ben Ali n'est pas là, c'est un peu comme quand vous avez un appareil ménager qui tombe en panne, vous lisez la notice. C'est le seul moment où vous lisez la notice. Qu'est-ce qu'on fait quand ça tombe en panne? On se réfère au mode d'emploi. Alors après, il faut retrouver le mode d'emploi qui est au fond d'un tiroir, on ne sait plus où. C'est un peu pareil avec la Constitution. On voit aussi un autre exemple dans le cas de l'Égypte. Le secteur militaire a su se désolidariser au bon moment de Moubarak pour s'attribuer la direction de l'État. Et c'est aussi dans ces moments de basculement, de fissure dans l'ancien bloc dirigeant, qu'on assiste à ce que Trotsky appelait donc les situations de double pouvoir, qui sont caractéristiques des situations révolutionnaires selon lui. Alors, Michel Daubry appelle cette situation de crise ouverte une conjoncture de fluidité politique, parce qu'elle est marquée par une désectorisation. Alors, jargon sociologique un peu lourdingue, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les frontières entre secteurs s'affaissent. Leur rôle de séparation s'effondre et chacun calcule non plus en fonction des repères propres à son secteur, mais en regard d'autres repères, souvent à plus court terme, et qui visent soit à survivre politiquement, soit à essayer de se saisir d'une opportunité. Et à ce titre, un autre ouvrage que j'ai mis dans la bibliographie, celui de Edward Luttwak, qui s'appelle « Coup d'État, mode d'emploi », il est intéressant parce qu'il décrit bien un ensemble d'enjeux qui relèvent de la conduite des coups d'État, mais aussi de l'attitude des dirigeants en situation révolutionnaire. Le contrôle des moyens de communication, la télé, la radio, le téléphone, Internet, c'est essentiel justement pour maîtriser l'incertitude, pour diffuser les informations les plus favorables à son projet, mais aussi priver des adversaires ou des concurrents des moyens d'élaborer une bonne tactique. Alors, un exemple, c'est le film capitaine d'avril de Maria de Medeiros sur la révolution des œillets au Portugal en 1974, où il y a des scènes importantes du film qui se déroulent à la station de radio. C'est-à-dire que c'est des militaires. Ça va devenir la suite des événements, on va dire, que va transformer leur mutinerie en révolution. Mais un des enjeux importants, c'est de contrôler la radio. Justement pour contrôler l'information et maîtriser l'incertitude. Et puis, il est aussi important dans une telle situation d'arrêter ou d'éliminer les concurrents directs. Et par exemple, il est important de tuer l'ancien dirigeant parce que ça produit un effet d'irréversibilité. Plus rien ne pourra être comme avant, donc chacun est forcé de réviser ses positions. Et le plus simple, et sans doute le plus prudent, c'est de suivre celui qui est en position de force. Donc la multiplicité des ralliements va en plus renforcer sa position. L'enjeu, c'est de réduire l'incertitude, donc de se rallier à ce qui paraît la solution la plus rassurante. À la fois, tuer l'ancien dictateur, ça permet de dire plus rien ne sera comme avant, et se montrer comme en position de force, vu que chacun n'a pas envie d'affronter celui qui est le plus puissant, et va au contraire se rallier, ça a un effet d'enchaînement. Donc celui qui apparaît au début comme le plus puissant devient effectivement le plus puissant parce que tous les autres se sont ralliés à lui. Alors une nouvelle fois, un exemple à partir de la révolution, de l'assassinat du dictateur Rafael Trujillo en République dominicaine en 1961. Finalement, c'est le président de la République qui a un rôle de fantoche pendant la dictature qui apparaît comme un point de ralliement parce que il dit que les intérêts de tout le monde seront préservés, que les intérêts de l'armée seront préservés, que les intérêts économiques de la bourgeoisie seront préservés, de l'Église, des États-Unis. Donc c'est celui qui apparaît en qui on a le plus confiance parce que il donne des gages de bonne volonté qui satisfont tout le monde. Donc tout le monde se rallie à lui et un personnage qui était strictement fantoche devient l'homme de pouvoir en mesure de succéder au dictateur disparu. Alors, toujours selon Luttwak, ça reste intéressant pour les révolutions, l'enjeu d'un coup d'État, c'est de couper le lien de subordination entre le gouvernement et l'administration. Donc ce sont deux logiques, deux choses différentes, deux secteurs différents, le gouvernement et l'administration. Et il s'agit de mettre cette administration à son propre service pour diffuser son autorité sur l'ensemble du territoire. Donc l'enjeu, il est de réaliser un transfert d'allégeance de la machine administrative de l'ancien régime au nouveau régime que celui qui mène le coup d'État essaye d'incarner. Et évidemment, ce sera d'autant plus facile si cette administration n'a pas de lien trop fort avec sa direction. Et évidemment, il faut jouer sur les tensions internes à la machine de l'État. Et par exemple, dans ce secteur essentiel qui est le secteur militaire, il ne faut pas essayer, si on essaye d'organiser une conspiration, il ne faut surtout pas essayer de gagner les chefs militaires, le haut de la hiérarchie militaire à sa conspiration. Parce que ces gens-là vont rester, ils ont toutes les chances de rester fidèles au pouvoir qui les a fait accéder aux positions dominantes. Ce sont les niveaux intermédiaires de la hiérarchie militaire qu'il faut se rallier. Donc les colonels plutôt que les généraux. Et évidemment, ceux qui sont déjà présents au sein du système politique sont avantagés dans cette prise de contrôle de l'administration, mais évidemment, ce sont aussi surtout ceux qui disposent d'une force militaire qui peuvent y parvenir. Alors, ce ne sont pas nécessairement ceux qui disposent, qui ont une autorité interne des officiers, qui disposent de cette puissance militaire, parce que si on a une mobilisation populaire armée, cette mobilisation populaire peut être en mesure de disputer la force militaire à l'armée. Et lorsque l'armée régulière a été renvoyée à ses casernes, ou lorsqu'elle se déclare elle-même neutre, lorsque ça a été, comme ça a été le cas en Iran en 1979, vous voyez qu'il y a une prise de contrôle facile sur l'administration, sur la machine de l'État. Donc une des conclusions de l'examen de ce processus, conclusion de ce deuxième point, c'est que les futurs dirigeants, si la révolution triomphe, ne seront pas nécessairement de complets nouveaux venus. C'est même rarement le cas, et les nouveaux régimes contiennent fréquemment des éléments de l'ancien régime qui ont su basculer à temps, retourner leur veste à temps, et qui ont permis aux révolutionnaires de prendre le contrôle sur l'appareil administratif, sur la machinerie de l'État, et donc de diffuser à l'intérieur du territoire. Alors, j'y reviendrai davantage en détail la semaine prochaine, mais donc pour l'instant, je vais passer à mon troisième point et évoquer quelques mécanismes qui apparaissent dans les processus révolutionnaires. Alors, je vais tout d'abord, premier de ces mécanismes, évoquer un auteur qui est important, mais voilà, je ne savais pas où le placer dans le cours. J'avais pensé l'évoquer la semaine dernière comme parmi les préconditions des phénomènes révolutionnaires, et puis en fait, je vais le traiter maintenant. Alors, c'est un auteur qui s'appelle Albert Hirschman, qui a traité un cas particulier, celui de la RDA en 1989. Alors, il nous montre à la fois que la protestation n'est pas nécessairement le comportement le plus immédiat en cas de mécontentement de la population, donc ça c'est la question des préconditions, j'aurais pu le traiter la semaine dernière, mais il évoque aussi certains effets d'imitation et de saisie des opportunités de diffusion de la protestation dans le cours des révolutions, d'où finalement, bon, pour les histoires de place, je l'ai mis maintenant, dans cette troisième séance. Alors, Albert Hirschman, je l'ai dit, c'est un économiste à la base, et il s'intéresse d'abord au comportement de consommation. C'est-à-dire, il part de la situation d'un consommateur qui est mécontent devant la baisse de qualité de son fournisseur habituel en biens ou en services. Et ce consommateur, il a trois possibilités. Première possibilité, il change de fournisseur. Par exemple, il change de crèmerie. Et c'est ce que Albert Hirschman appelle la défection. Et c'est un comportement qui est le plus souvent individuel et silencieux. Un jour, votre crémier ne vous revoit plus parce que vous avez changé de crèmerie. Deuxième solution, le consommateur se plaint. Il prend la parole pour signaler son mécontentement au fournisseur. Il a trouvé une araignée dans son pot de crème. Bon. Et il dit, ah non, il ne faudrait pas que ça se reproduise quand même, c'est dégueulasse. Bon. Cette option, elle peut être, donc elle est brillante, puisqu'il y a une prise de parole, et elle peut être collective. Ça peut être une association de consommateurs qui fait un procès à Findus, par exemple. Soit, troisième option, le consommateur reste fidèle. C'est ce que Hirschman appelle la loyauté. Parce que, pour une multiplicité de raisons, ça peut être trop coûteux de changer de fournisseur, parce qu'on peut se satisfaire malgré tout de la baisse de qualité, ou bien parce qu'il n'y a pas le choix, et qu'il y a une situation de monopole de ce fournisseur. Il n'y a qu'une seule crèmerie dans le canton, et bon, c'est ce qu'on pourrait appeler une situation de loyauté forcée. Alors, évidemment, cette configuration, trois options, peut être étendue aux situations de mécontentement politique. Et c'est précisément ce qu'a fait Albert Hirschman à propos de la révolution en RDA. Parce que pendant les premières années d'existence de la RDA, après la Seconde Guerre mondiale, ceux qui étaient mécontents pouvaient faire défection, donc la première solution. Et ils pouvaient faire défection d'autant plus facilement qu'il existait un autre pays avec la même langue, la même culture et la même histoire, la RFA, qui en plus était prête à les accueillir bras ouverts. Alors, évidemment, ça n'a duré qu'un temps, et le régime communiste de la RDA a rendu la défection impossible, en tout cas très difficile, très risquée, en construisant le mur. C'est tout bête, mais voilà, ça empêche de partir. Alors, logiquement, on aurait dû assister, après la construction du mur, à une augmentation de la prise de parole. Selon le modèle de ce que Hirschman appelle le modèle de bascule, c'est-à-dire quand une option est impossible, ça profite à une autre option. Ça s'est fait, mais de manière très limitée, parce que dans le même mouvement, la RDA a augmenté les risques de la prise de parole, en renforçant la répression, et donc les Allemands ont été contraints à une loyauté forcée à l'intérieur des frontières de leur pays. Et ce n'est pas un hasard de ce point de vue si la RDA avait la réputation d'être le pays le plus répressif et le plus inquisitorial de tout le bloc soviétique. Qu'est-ce qui change en 1989? Il y a la perestroïka, Gorbatchev, qui annonce que la Russie, l'URSS n'interviendra plus dans les affaires des autres pays du bloc soviétique, du pacte de Varsovie. Et puis, il y a une phase de relâchement de la répression. Là, on trouve des choses sur ce que disait Tocqueville, et notamment la Hongrie ouvre sa frontière avec l'Autriche. Du coup, les Allemands de l'Est qui veulent partir vont en Hongrie. Là, les frontières étaient ouvertes parce qu'on restait dans le bloc soviétique, et à partir de là, ils rejoignent l'Autriche et l'Allemagne. Donc l'option de la défection redevient possible. Le souci, c'est qu'ils sont tellement nombreux à le faire que ce choix de la défection n'est plus une option silencieuse et individuelle, c'est que ça se voit, c'est-à-dire que les gares sont envahies de gens qui veulent partir en vacances en Hongrie, et qui veulent partir en Hongrie pour aller ailleurs, en Allemagne de l'Ouest, et surtout ne plus jamais revenir. Donc, la défection prend le sens d'une protestation collective. Alors, ces tentatives d'exil commencent à être réprimées, et la RDA ferme sa frontière avec la Hongrie. Donc, à nouveau, le régime veut empêcher la défection, et du coup, ceux qui veulent partir commencent à râler en disant « il y en a d'autres qui sont partis, pourquoi nous ?» Donc, ça commence à devenir tendu autour des gares. Et puis ça suscite la désapprobation de ceux qui, encouragés par le vent contestataire qui souffle sur tout le bloc soviétique, entendent réformer le régime et qui prennent la parole, comme dit Hirschman, et qui scandent « on reste ici ». Manière de dire « vous êtes des dégonflés, ceux qui veulent faire défection, ou vous êtes des lâches, c'est maintenant qu'il faut agir et c'est sur place qu'il faut agir ». Donc on reste ici, le dire à haute voix et collectivement, c'est un retour à la prise de parole. Mais ce qu'on voit, c'est que dans cette conjoncture, la défection et la prise de parole ne se sont pas opposées, elles se sont nourries l'une l'autre pour permettre l'expression publique du mécontentement. Et cette conjoncture, évidemment, va culminer avec la chute du mur de Berlin, qui signe à la fois la possibilité de faire défection sans risque, mais aussi la réunification de l'Allemagne et la fin de la RDA et la fin de son régime plus précisément. Donc voilà un ensemble de mécanismes qui a permis la dynamique de la protestation. Un deuxième mécanisme sur lequel je veux insister, c'est celui de la radicalisation. À partir de l'exemple de la Révolution française qui a été étudié par un historien américain qui s'appelle Timothy Tuckett. Là aussi, je renvoie à la bibliographie pour les références. Et Timothy Tuckett s'intéresse aux premières étapes du processus révolutionnaire, donc à la convocation des États généraux pendant l'été 1789. Et il travaille sur un matériau très, très intéressant qui est la correspondance des députés du tiers État. Et on a gardé leurs lettres, leurs héritiers ont gardé leurs lettres, etc. C'est déposé aux archives nationales ou dans toute une série d'archives. Et voilà, c'est un matériau passionnant pour un historien. Et surtout de voir l'évolution de l'état d'esprit de ces députés du tiers état au fil du processus. Et il apparaît, à lire cette correspondance, que ces députés, à leur arrivée à Versailles, n'avaient aucunement le projet de mettre fin à la monarchie. Au contraire, ils sont très respectueux du roi, et la cour de Versailles, pour le dire un peu vulgairement, leur en met plein la vue par son luxe et sa grandeur. Ils sont vraiment très impressionnés par tous ces grands nobles de grandes familles, par le roi, par tout les dorures, ils sont vraiment très, très impressionnés. Alors, ces députés du tiers état, socialement, ce sont des membres d'une élite bourgeoise de province, ce sont en majorité des gens qui ont suivi des études juridiques, ainsi que des négociants, des médecins, des gros propriétaires. Parmi eux, évidemment, on trouve ni artisans ni paysans. Ils ont un train de vie assez confortable, ils viennent de familles bien établies et ils partagent globalement les valeurs de l'ancien régime, pendant lequel et grâce auquel ils ont pu connaître une certaine réussite. Néanmoins, c'est quelque chose que j'avais évoqué la semaine dernière, ils ont un certain sentiment de frustration du fait que leur mobilité sociale, elle est bloquée par le monopole de la noblesse sur l'accès à certaines positions dominantes, notamment dans l'armée. Alors qu'est-ce qui se passe pendant le printemps et l'été 1789? Ben, ils vont loger à Paris, hein, ce sont des provinciaux, ils sont loin de leur famille. Ils vont se rencontrer dans les auberges, discuter de la réforme de l'État qui est demandée par le roi. Hein. C'est une situation de crise financière de l'État. Et il y a une certaine effervescence intellectuelle qui va naître de cette sociabilité et puis une certaine cohésion de groupe entre députés du tiers État. Et cette cohésion, elle va se renforcer au fil des interactions avec les représentants de la noblesse, qui, eux, sont dans leur majorité de grands aristocrates, issus de très vieilles lignées, et des grands propriétaires fonciers. Et ce sont des interactions qui se passent mal pendant les États généraux, parce qu'il y a des divergences sur la conduite des États généraux, et puis surtout, les nobles méprisent ostensiblement les représentants du tiers-État. Il y a une conflictualité qui monte, mais aussi une radicalisation des députés du tiers que Taquet peut identifier au fil de la correspondance. Et c'est dans les débats qui les opposent aux nobles qu'ils vont se radicaliser, se montrer de plus en plus hostiles à l'aristocratie et à la monarchie, et c'est à ce moment-là qu'ils vont puiser dans leur lecture pour trouver des arguments et formuler des propositions. C'est donc progressivement, nous dit Taquet, que les députés du tiers-État sont devenus révolutionnaires. C'est au fil de l'évolution de la situation, au fil du processus, qu'eux-mêmes sont devenus révolutionnaires. Ils ne l'étaient pas nécessairement en arrivant à Versailles. Donc on retrouve mon point de départ, hein, ce sur quoi j'ai ouvert le cours d'aujourd'hui. Une fois la dynamique enclenchée, elle se nourrit d'elle-même, peu importe ses causes qui sont oubliées. Hein, en l'occurrence, c'est dans l'antagonisme avec la noblesse, qui est né de leurs interactions dans la salle des États généraux de Versailles, qu'ils en sont venus à se radicaliser et à se définir comme révolutionnaires. Ils n'avaient pas un programme tout prêt de nouvelle société dès le début du processus, c'est ce processus qui les a amenés à puiser des solutions dans leur lecture. Donc là, on est en divergence assez fondamentale avec des auteurs que j'avais évoqués à la fin de la première séance, qui sont François Furet ou avant lui Augustin Cochin, qui invoque le rôle des Lumières que les révolutionnaires auraient voulu mettre en pratique. On voit à l'inverse que les idées, les programmes, les idéologies ne sont pas premiers, ils sont suscités par la situation qui amène à changer de position. Les députés qui étaient respectueux du roi vont en venir progressivement à remettre en cause la monarchie. Donc attention au biais intellectualiste, qui présuppose que les idéologies sont premières dans les révolutions et que les révolutionnaires ont toujours un programme de nouvelle société déjà bouclé au moment où ils s'engagent. Et puis, un mécanisme similaire de transformation du processus sous l'effet de son déroulement, on va retrouver ça dans la RDA à nouveau en 1989. Hein. Et je vais me référer à un auteur que j'ai déjà évoqué, François Chazelle, qui a étudié les slogans des manifestations du mois de novembre 1989 en RDA. Au départ, le slogan, c'était « Nous sommes le peuple ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire, de scander « Nous sommes le peuple » ben, ça revient à nier au régime communiste la légitimité de représentants du peuple. Ça se prétend république populaire, mais le peuple n'est pas à la tête de l'État, il est dans la rue, et la souveraineté populaire, elle est parmi les manifestants, et pas dans une nomenclatura communiste autoritaire. Donc, dans ce slogan, en disant « c'est nous le peuple, c'est pas vous », malgré que vous vous déclariez démocratie populaire, il y a une remise en cause, donc, de la capacité du pouvoir à représenter le peuple et un déni du caractère démocratique dont il se prévaut. Donc nous sommes le peuple. Mais à partir d'une certaine phase de montée en puissance de la contestation, il y a un glissement de vocabulaire qui est presque imperceptible mais qui est décisif. On se met à scander « nous sommes un peuple ». Et dans ce passage de « le peuple » à « un peuple », il y a une transformation considérable puisque ce n'est plus seulement une démocratie réelle qui est réclamée, mais c'est la réunification de l'Allemagne, qui était absente comme projet au début de la séquence de contestation en RDA. C'est le processus révolutionnaire lui-même qui a permis la formulation de cet objectif. Alors évidemment, je n'ai pas fait le tour des mécanismes qui donnent forme à un processus révolutionnaire. Il aurait fallu que je parle des processus contre-révolutionnaires, par exemple, comme la Vendée pendant la Révolution française, qui a été un peu remise d'actualité ces derniers temps, avec des polémiques, qui ne sont toujours pas éteintes. On aurait pu parler aussi des effets ambigus du recours à la violence, qui à la fois peut intimider, mais qui peut aussi radicaliser des contestataires. J'aurais aussi pu parler des saillances, c'est-à-dire des personnalités, des groupes, des institutions ou des sites dont l'attitude ou le destin sont observés avec une grande attention parce qu'ils sont supposés jouer un rôle déterminant. Par exemple, De Gaulle, pendant la crise de 1958, il ne dit pas grand-chose, il ne fait pas grand-chose, mais tout le monde se réfère à lui et construit ses anticipations en fonction de ce qu'on suppose être ses intentions. Donc il devient un point saillant, tout le monde, y compris ceux qui lui sont hostiles, se réfèrent à lui. Dans une certaine mesure, la même chose pour le Parti communiste en mai 68, qui est à la fois la principale force d'opposition, qui se réclame d'une tradition révolutionnaire, mais qui n'a pas organisé ni souhaité la crise, et dont l'attitude sera extrêmement ambiguë. Ça, j'y reviendrai la semaine prochaine. J'aurais aussi pu revenir sur le rôle des réseaux sociaux, alors une nouvelle fois, pas au sens de Facebook ou Twitter, mais au terme de réseaux de sociabilité et de construction identitaire des populations, qui jouent un rôle décisif dans l'extension d'une mobilisation. Par exemple, les mosquées, pendant la révolution iranienne, qui n'étaient pas des sites politiques au début du processus, mais qu'ils sont devenus progressivement au fur et à mesure du développement du processus révolutionnaire. Bon, j'aurais pu parler de tout ça, mais je crois que ça va être tout pour ce soir. Et la séance de la semaine prochaine, donc consacrée aux suites des révolutions, me permettra aussi de revenir sur certains de ces points. Voilà. Je vous remercie.